France Inter, il est 7h. Mercredi 17 juillet 2019, bonjour à tous et bonjour Laurence Thomas.
Bonjour Frédéric.
À la une de l'actualité ce matin, Laurence, Elisabeth Borne remplace François de Rugy au ministère de l'écologie. La solution est claire d'Emmanuel Macron pour éviter un nouveau feuilleton d'été désastreux. Les autres titres.
L'ouverture d'une enquête par le parquet d'Evry pour espérer comprendre pourquoi les magasins de bricolage ont été dévalisés de leurs bouteilles d'acide chlorhydrique le week-end dernier. Vers la fin des pipis intempestives dans les gares, un nouveau dispositif de la SNCF pour dissuader les usagers d'uriner sur les murs. Et puis nous irons bien sûr en Afrique du Sud, un pays qui pleure la mort de Johnny Clegg.
Les invités de France Inter ce matin, à 8h moins le quart, le député Rassemblement National Louis Alliot. À 8h20, le grand entretien de Bruno Le Maire. Démission de François de Rugy, G7 Finance, taxation des GAFA et impôt mondial sur les sociétés. Vos questions au ministre de l'Économie et des Finances. Dès maintenant au 01 45 24 7000, le standard est ouvert.
France Inter. Il est difficile souvent de résister au principe de réalité où quand l'écho médiatique rythme la politique, la pression était devenue trop forte après une semaine de polémiques autour entre autres des repas fastueux de François de Rugy du temps où il présidait l'Assemblée. C'est Elisabeth Borne qui reprend son ministère en plus de celui des Transports. Emmanuel Macron a dit respecter, je cite, la décision personnelle de celui qui était numéro 2 du gouvernement. Le pouvoir était en fait partagé entre deux logiques. Ne pas plier devant la République de la délation, disait le chef de l'État il y a quelques jours, sans pour autant se faire servir Omar Dodu et Moutou Rothschild pendant des mois. Au rythme des révélations à la chaîne de Mediapart, le cauchemar de l'été 2018 avec l'affaire Benalla ne devait pas gâcher celui de 2019. En réalité, Karine Bécard, ces accusations ont très vite embarrassé l'exécutif.
Emmanuel Macron ne voulait pas a priori de cette démission. D'abord parce qu'il estimait François de Rugy, il appréciait beaucoup chez lui cette façon d'avancer petit à petit sur les dossiers écologiques. Et puis le président, question de principe, n'était pas prêt à offrir à la vindicte la tête d'un de ses ministres. Mais il n'empêche, depuis le début, l'Élysée aurait été assez embarrassée par certaines photos qui ont été publiées. De même, l'exécutif aurait préféré que François de Rugy ne vire pas si vite sa directrice de cabinet, Nicole Klein, une ancienne préfète, celle qui avait évacué la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et sur laquelle le gouvernement s'était largement appuyé. Donc depuis une semaine, l'Élysée aurait été embêtée et se serait interrogée comment couper la branche de Rugy mais sans abîmer l'arbre gouvernemental. Eh bien, tout simplement en sachant tout de suite par qui le remplacer. Et c'est exactement ce qui est arrivé. François de Rugy était à peine sorti qu'Elisabeth Borne s'est retrouvée nommée.
Karine Bécard, parmi les réactions à cette démission de François de Rugy, celle d'Elsa Faucillon, députée communiste, il est temps, dit-elle, que cette 5e République aux allures monarchiques s'achève. Son comportement a beaucoup choqué au moment où le gouvernement demande aux Français de se serrer la ceinture. C'est la réaction de Mathilde Panot, vice-présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée. Ou encore Sébastien Chenu, député porte-parole du Rassemblement National. Rugy, dit-il, s'est pris les pieds dans le tapis à cause de mauvaises pratiques. Et du côté du parti Les Républicains, cette réaction plutôt mesuré de Daniel Fasquelle, député du Pas-de-Calais.
Ce n'est pas parce qu'il a démissionné qu'il est coupable. Je crois qu'il faut garder la tête froide et savoir raison garder. Mais simplement, moi, ce que je constate, c'est qu'il n'était plus en capacité, les numéros 2 du gouvernement, à la tête d'un ministère très important, et il n'était plus en capacité d'exercer ses fonctions de ministre dans de bonnes conditions. On verra bien à la fin si il a commis ou non des fautes alors juridiques ou morales. Mmh. Moi, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, un ministre qui, tous les jours, subit des accusations nouvelles, qui n'est plus en capacité d'exercer convenablement ses fonctions de ministre, il doit se mettre en retrait, au moins le temps d'assurer sa défense.
Et de 14h40 à 23h40, hier, il n'aura pas fallu 10 heures avant que François de Rugy ne soit remplacé.
Et tout à l'heure, le gouvernement sera donc au complet pour le Conseil des ministres. Elisabeth Borne prend la tête d'un super ministère. Non seulement elle remplace François de Rugy sur les questions de transition écologique, mais en plus elle conserve le dossier transport, sans pour autant avoir le titre de ministre d'État réservé, explique l'exécutif au ténor politique. Son portrait, signé Julie-Marie Lecomte.
Elisabeth Borne, c'est une historique du gouvernement. Elle est dans l'équipe d'Édouard Philippe depuis le début. L'entourage d'Emmanuel Macron explique que le président de la République l'a choisie parce qu'elle a mené à bien l'une des réformes les plus importantes, selon lui, du début du quinquennat, celle de la SNCF, puis une réforme clé du début de l'acte 2, la loi sur les mobilité. Le président de la République considère qu'elle a deux points forts, de bonnes relations avec les élus locaux et une capacité à négocier avec les syndicats. Il mise sur son expérience. Il apprécie qu'elle se soit beaucoup frottée au terrain et au concret, commente un conseiller d'Élysée. Comme préfète de Poitou-Charentes, comme patronne de la RATP et comme directrice générale de l'urbanisme à la mairie de Paris, une ligne de son CV a plaidé en sa faveur en 2014. Elisabeth Borne a été directrice de cabinet de Ségolène Royal au ministère de l'écologie précisément. De quoi en avoir une maîtrise technique parfaite aux yeux du président.
Et Elisabeth Borne reste secondée par deux secrétaires d'État, Emmanuel Wargon et Brune Poirson. Dans l'actualité judiciaire, cette enquête demandée par le parquet d'Evry dans l'Essonne après l'achat en grande quantité d'acide chlorhydrique dans les magasins de bricolage du département. En fait, les boutiques Bricorama, Castorama et autres Weldom ont été dévalisées le week-end dernier à tel point que les responsables des magasins ont alerté les services de police. La crainte que cet acide chlorhydrique ne soit utilisé pour la fabrication de bombes artisanales, Sylvie Charbonnier.
Et ce qui inquiète la police comme les autorités, c'est que ces stocks d'acide chlorhydrique n'ont pas été utilisés le week-end dernier. Il y a eu des violences urbaines un peu partout en Essonne, il y a eu l'attaque du commissariat aux Ulysses, mais avec des pierres, des cocktails Molotov, aux mortiers d'artifice, mais pas avec de l'acide chlorhydrique. D'où l'inquiétude pour les jours à venir, notamment des policiers régulièrement pris pour cible. Guillaume Roux est délégué départemental unité SGP Police en Essonne.
On sait très bien que le week-end prochain arrive la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et aujourd'hui, comme on peut le voir ces derniers jours, tout est prétexte pour s'en prendre à la police. Donc voilà, forcément, l'inquiétude est présente parce qu'on se dit qu'à un moment donné ou à un autre, eh bien, ce produit va être utilisé contre les forces de l'ordre, contre nos collègues. Donc oui, c'est quelque chose qu'on prend très au sérieux.
Tellement au sérieux que les commissariats sont sur le qui-vive, que les services de la Sûreté départementale sont chargés d'enquêter, notamment pour déterminer précisément la quantité d'acide acheté le week-end dernier, mais surtout par qui.
Les gares SNCF partent en guerre contre les mauvaises odeurs, comprenez l'odeur d'urine insupportable, notamment dans les couloirs, et ce sera bientôt de l'histoire ancienne, promet la SNCF. Elle expérimente un nouveau moyen de lutter contre les pipis sauvages à la gare des Mureaux dans les Yvelines. Alors pas question de jouer aux gendarmes, la SNCF préfère jouer avec le comportement des gens pour les rendre plus civiques, ça s'appelle en anglais le nudge, on pourrait le traduire en français par coup de pouce. Après avoir repéré les quelques endroits transformés en urinoirs sauvages par quelques mal élevés, elle a décidé en mai de le rénover et d'y installer une aire de jeu pour enfants. Résultat plutôt prometteur, 88% de miction en moins mesurée dans l'ensemble de la gare des Mureaux, un mois après la mise en place du dispositif. Reportage de Simon Cardona.
À quelques mètres de la gare, Sadia et Ada se reposent à l'ombre sur l'aire de jeu créée par la SNCF. Une piste de course avec un chronomètre sur le mur. Il y a 3 mois, elle fuyait l'endroit.
C'est vrai, je me rappelle cet endroit avant. C'était
sale et puant. Maintenant, ce sont les enfants des deux assistantes maternelles qui ont pris possession des lieux.
C'est bien pensé. Et ça a marché, hein, d'ailleurs, ça pue pas.
Rachid est plus sceptique. Assis sur le capot de son taxi, il a constaté que le problème s'est juste déplacé de l'autre côté de la route, chez les habitants.
Là, les feuillages, là, ouais, là-dedans. Il y en a qui font même caca là-dedans. J'ai déjà vu. Hein.
Pourtant, il y a bien un WC public en face de la gare.
Quand j'ouvre la porte, je vois des excréments par terre. Hein, c'est pas agréable.
Chez SNCF Transilien, Catherine Delisle, la chef du projet, sait que le nudge, c'est-à-dire le fait de jouer sur le comportement des gens, n'est qu'une solution temporaire.
Un nudge, ça s'appuie sur la liberté de choix. Il s'avère aujourd'hui que l'offre, qu'est-ce que je fais quand j'ai envie de faire pipi ? Il y a des toilettes publiques qui nécessiteraient d'être plus souvent entretenues. Et il y a un projet dans la gare de mise en place de toilettes où on pourra accéder avec son titre de transport. Mais ça, c'est dans quelques années.
Sur 450 gares franciliennes, une centaine disposent de toilettes. Mobilité Île-de-France promet le double en 2021.
Simon Cardona.
France Inter, 7h09, c'est la suite du journal de Laurence Thomas avec la fin d'un feuilleton de plus de 40 ans.
Et peu de suspense pour le narcotrafiquant mexicain Joaquim Guzman, alias El Chapo. Il devrait être condamné à New York à la prison à vie à la mi-journée. Considéré comme le narcotrafiquant le plus puissant depuis la fin du règne du Colombien Escobar, Joaquim Guzman, 62 ans, a acheminé aux États-Unis au moins 1200 tonnes de cocaïne sur un quart de siècle. La plupart des Mexicains voient d'un bon œil la condamnation d'El Chapo aux États-Unis, mais au Sinaloa, la région d'origine de Guzman, le baron de la drogue jouit encore d'une certaine popularité. Il est perçu comme un homme juste et généreux par beaucoup d'habitants de cet état du nord du Mexique où s'est rendu Emmanuel Stills. Reportage à Culiacán, la capitale du Sinaloa.
Le gouvernement pourra dire ce qu'il veut, ici les gens l'aiment beaucoup. Cet instituteur parle de Joaquín Guzmán comme beaucoup d'habitants du Sinaloa, avec une admiration non feinte. Pour lui, le narcotrafic n'est pas un crime, mais une tradition. Un autre instituteur venu de la campagne, qui observe les figurines à l'image d'El Chapo vendues à Culiacán, se souvient du jour où il l'a aperçu lors d'une fête populaire.
C'était dans une ville toute proche d'ici, juste avant sa dernière arrestation. Il offrait des fleurs aux femmes, il commandait des chansons à l'orchestre, il payait des bières, il se mêlait aux gens. C'était quelqu'un de bien. Il n'aimait pas les injustices, il distribuait de l'argent et toutes sortes de choses.
Suite à la capture d'El Chapo, des milliers de personnes ont manifesté à Culiacán pour réclamer sa libération. Ismael Bojorquez, le directeur de la revue Rio Dossé, spécialisé dans les enquêtes sur le crime organisé, cherche une explication à cet engouement populaire.
Pour les gens, c'est une façon de décharger leur hostilité envers le gouvernement. Alors, par opposition, ils voient El Chapo comme un héros, une idole, une source d'inspiration.
Au Sinaloa, la guerre contre la drogue menée par les gouvernements successifs, jugés responsables de nombreux abus, a exacerbé la fascination pour les narcotrafiquants comme El Chapo. Mexico, Emmanuel Stales, France Inter.
À l'étranger toujours, si l'on doit se souvenir d'une voix contre l'apartheid, c'est celle de Johnny Clegg.
Le chanteur sud-africain, mort à l'âge de 66 ans, était tombé amoureux de la musique zoulou à l'adolescence. Il se plonge alors tout entier dans la culture des Sud-Africains noirs, jusqu'à en apprendre la chorégraphie effrénée. L'artiste qui a vendu plus de 5 millions d'albums dans le monde a signé de nombreux tubes, dont la chanson dédiée à Mandela à Simbananga. Un temps interdite en Afrique du Sud par le gouvernement raciste blanc, elle deviendra un symbole de la nation arc-en-ciel une fois le régime de l'apartheid tombé en 1994. Reportage de Noé Ochebaudin. Il est allé recueillir les réactions des Sud-Africains à Johannesburg après la mort du musicien.
Derrière le bar de son restaurant, Touri, la cinquantaine, se souvient de son idole de jeunesse.
Quand vous aviez 15 ou 18 ans dans les années 80, sa musique faisait partie de votre vie. Donc pour moi, ça a été un choc d'apprendre sa mort.
Johnny Clegg a marqué un tournant, selon lui, dans le combat contre l'apartheid.
Dans la vieille Afrique du Sud, c'était du jamais vu de voir un blanc et un noir qui chantaient, qui dansaient ensemble. C'était un message profond, un message que j'ai toujours aimé.
Aubrey a lui 24 ans, il n'était pas encore né au moment du phénomène Johnny Clegg.
Je suis encore jeune, je suis seulement né après la fin de l'apartheid, mais je me suis informé sur lui et sur sa musique. J'ai pu voir l'énorme impact politique qu'il a eu. C'était un avant-gardiste et c'est très triste pour la communauté sud-africaine aujourd'hui de perdre quelqu'un comme lui.
Celui que l'on surnomme le Zoulou Blanc sera donc l'un des rares à avoir consacré sa vie pour créer une unité entre tous les Sud-Africains. Johannesburg, Noé Ochebaudin, France Inter.
Scatterlings of Africa, un titre sorti en 1983, un triomphe mondial qui légitimera Johnny Clegg dans son pays et à l'étranger.
Toute une époque, ces années 80. C'était Laurence Thomas pour le journal.